BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue sur BPM dans notre émission hebdomadaire consacrée aux associations sociales du Mantois. Et aujourd'hui, nous recevons Défi Service Plus et sa directrice Aude Amarurtu. Aude, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter Défi Service Plus ?
Avec grand plaisir. Défi Service Plus est une association qui a un peu plus de 30 ans. On est une association d'insertion professionnelle, donc nous accompagnons des personnes en recherche d'emploi qui peuvent avoir des difficultés particulières et nous les aidons à obtenir un emploi pérenne. C'est l'objectif final de l'association.
Vous m'avez dit le plus est important parce que vous avez fait deux associations qui ont fusionné.
C'est ça, tout à fait. On a deux associations qui ont fusionné en 2015. Défi Service, qui était basé à Chanteloup-les-Vignes depuis 1992, et Tremplin Plus, basé à Aubergenville, qui avait à peu près le même âge. Donc on a fusionné, d'où le plus de Défi Service, c'est l'histoire de Tremplin Plus.
Donc vous nous l'avez dit, de l'insertion professionnelle, comment ça fonctionne? Puisque tout le monde connaît Pôle emploi, en règle générale, quand on recherche, c'est un petit peu la porte d'entrée. À quel moment vous intervenez dans ce parcours?
Alors, on peut intervenir à deux moments différents, je dirais, dans le parcours. Le cas général, c'est la personne qui va s'inscrire chez Pôle emploi et le conseiller Pôle emploi va se dire cette personne a besoin d'un accompagnement plus poussé, plus personnalisé, que Pôle emploi n'a pas forcément les moyens de donner à tous ses bénéficiaires, malheureusement. Et donc, ils vont nous adresser ce profil, donc nous l'orienter et nous, on va prendre le relais et travailler main dans la main avec le conseiller Pôle emploi jusqu'à ce que la personne trouve une solution et un emploi durable. Donc ça, c'est le cas général. Et puis, on a l'autre cas qui est un peu moins courant, mais qui existe et malheureusement de plus en plus, c'est la personne qui n'est pas inscrite à Pôle emploi pour plein de raisons. On va avoir des personnes qui n'ont peut-être plus droit au chômage et qui ne voient pas forcément l'intérêt de rester inscrit à Pôle emploi. Alors, petit conseil aux auditeurs, c'est quand même bien de rester inscrit à Pôle emploi, donc faites-le. Mais on en a quand même qui vont abandonner et qui vont venir nous rencontrer parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce qu'ils ont des proches qui sont également passés par notre dispositif. On a aussi des jeunes qui se disent que c'est pas à peine de s'inscrire à Pôle emploi parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Donc, ils n'en voient pas forcément l'intérêt. Ou malheureusement, des personnes qui souffrent d'illettrisme ou qui n'ont pas accès au numérique, sachant qu'aujourd'hui, pour s'inscrire à Pôle emploi, il faut prendre un rendez-vous en ligne. Donc, c'est vrai que tout ça, ça peut être un frein.
Et la précarité numérique peut du coup empêcher ce type de fonctionnement.
Exactement, ça peut être compliqué pour ces personnes. Donc, nous, on va les aider. Hein. Une fois qu'ils viennent nous voir, la première chose qu'on fait, c'est les inscriptions à Pôle emploi.
Aujourd'hui, pour bien se rendre compte de Défi Service Plus, combien de personnes vous accompagnez par an ?
Alors, tous les ans, on va accompagner entre 200 et 250 personnes, en fonction de la taille de l'équipe et puis de l'activité. Et sur ces personnes, si on prend les chiffres de 2022, on en avait accompagné 242, pour être précis, et 86% d'entre eux ont accédé à l'issue du parcours à un emploi durable.
Donc 86% des personnes que vous accompagnez ont ensuite trouvé un emploi durable.
Exactement.
C'est un chiffre qui paraît énorme, comme on ne va pas dire taux de réussite parce que ce serait confronté à taux d'échec, mais en taux de transformation, en tout cas, c'est assez exceptionnel.
Alors, c'est vrai que c'est un taux qui est très élevé. Alors, on en est très fiers, c'est pour ça qu'on le martèle un petit peu. C'est un taux qui est très élevé, qui est plus élevé que la moyenne des associations telles que la nôtre sur le territoire national. Alors, c'est dû à deux choses. La première, il faut se le dire quand même, c'est un contexte territorial. On a de la chance quand même d'être en Île-de-France, dans un bassin où il y a de l'emploi. Donc c'est évident que c'est plus simple que dans des zones rurales de trouver un emploi pérenne pour les personnes que nous accompagnons. Et puis par ailleurs, on a quand même une équipe qui fait un travail fantastique d'accompagnement très personnalisé, de connaissances vraiment très proches des personnes qu'on accompagne. On leur propose un accompagnement socio-professionnel, on les aide à traiter tout ce qu'on appelle les freins sociaux, donc tout ce qui va être les difficultés que rencontrent ces personnes qui les empêchent de trouver un emploi.
C'est-à-dire comment ça fonctionne? En fait, vous ne vous occupez pas uniquement de la partie professionnelle, c'est ça?
Exactement. En fait, pour s'occuper de la partie professionnelle, il faut avoir en amont traité d'autres sujets. Quand vous avez une personne qui a une problématique de logement, donc ne sait pas où elle va dormir le soir, quand vous avez une personne qui a une problématique de mode de garde de ses enfants, donc elle veut travailler, mais elle a des enfants à charge, elle n'a pas de solution. Quand vous avez une personne qui a des problématiques d'addiction, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent exister. Ces personnes-là, même si elles souhaitent travailler, au quotidien, en fait, il y a des choses qui l'en empêchent. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de traiter ces situations-là. Donc, on va les accompagner avec les autres partenaires qui sont sur le sujet, avec des assistantes sociales, avec des associations, avec des centres d'hébergement, enfin, tous les acteurs qui peuvent intervenir sur le sujet de la personne pour d'abord traiter ces situations-là et faire en sorte que la personne puisse être disponible pour trouver un travail. Ça, c'est la première chose.
Vous voulez dire qu'en fait, c'est un maillon de la chaîne, c'est ça ? Ensuite, il y a d'autres relais sur lesquels vous vous appuyez pour pouvoir les accompagner ?
Exactement. Je pense qu'il est à la fois trop ambitieux et trop présomptueux de se dire qu'on va pouvoir tout faire. Nous, on est une association d'insertion professionnelle. Notre travail, c'est l'insertion professionnelle. Par contre, il y a des gens formidables, des associations, des services publics qui sont en mesure de traiter d'autres sujets. Typiquement, c'est le travail des assistantes sociales, c'est le travail d'autres associations que nous connaissons tous, de solidarité, que ce soit les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc nous, on n'a pas pour vocation de remplacer tout le monde, on a pour vocation de travailler en partenariat avec les autres acteurs et de pouvoir orienter la personne vers la bonne institution qui va pouvoir l'aider sur ses problématiques particulières. Le travail en réseau, c'est vraiment le cœur de notre action.
Est-ce qu'il y a des critères pour être suivi par votre association ?
Alors oui, il y a des critères parce qu'en fait, on est une association dite association intermédiaire. C'est notre statut. Hein, c'est un statut qui existe au niveau de l'État depuis 1987.
Ça signifie quoi exactement ?
Alors ça signifie quoi ? En fait, c'est un agrément. L'État nous donne un agrément qui nous permet d'exister, qui nous permet d'avoir toute la légitimité et puis les outils qu'on peut utiliser, un type de contrat de travail particulier, un petit peu d'aide de l'État, même si on n'a vraiment pas beaucoup. Alors, donc, on est à peu près 600 associations intermédiaires en France. Et donc j'ai perdu le fil de ce que nous disions. Donc oui, on est une association intermédiaire. Et à ce titre, on peut accompagner un certain type de public. On ne peut pas accompagner tout le monde. Il y a des critères qui sont définis par l'État. Alors, c'est évidemment assez technique. Il y a des critères de niveau 1, des critères de niveau 2. Mais globalement...
Qui sont liés à des ressources ou à un âge ou...
Alors, qui sont liés plutôt à une condition...
De vie.
Une condition de vie. Donc, on va avoir, par exemple, en critère de niveau 1, c'est-à-dire une personne qui est dans cette situation peut être accompagnée. Ce sont les chômeurs très longue durée, donc plus de 2 ans de chômage. Les allocataires du RSA, les personnes qui sont reconnues handicapées et qui touchent l'allocation adulte handicapé et certains réfugiés statutaires. Ça, c'est les critères de niveau 1. Puis après, on a des critères de niveau 2, où là, il faut en cumuler 2. Et donc là, il y a énormément de choses, mais globalement, on va avoir les moins de 26 ans, les personnes sans qualification, les personnes qui vivent en quartier prioritaire, les parents isolés.
Les personnes qui peuvent être plus touchées par la précarité, finalement.
Exactement. Les personnes qui ont des fragilités dans leur parcours, dans leur vie, qui fait que si on n'intervient pas, effectivement, ils vont avoir de grandes difficultés à trouver un emploi et une situation stable.
Donc, une fois qu'on remplit ces critères, vous nous l'avez dit, parfois Pôle emploi vous adresse des personnes, les personnes parfois vous contactent aussi. Là, dans ces cas-là, c'est quoi ? Il faut monter un dossier. Prenons une personne concrète. Elle n'a pas d'emploi là actuellement, elle ne sait plus comment faire, elle se tourne vers vous. Quelles sont les démarches ?
Alors, c'est assez simple. Nous, une personne de l'équipe va la recevoir et on va faire un diagnostic de la situation de la personne. Et on va regarder si elle répond ou non aux critères d'éligibilité. Si la personne répond à ces critères d'éligibilité, mettons, c'est une maman isolée qui habite dans un quartier prioritaire, on va lui demander de justifier sa situation avec les pièces administratives qui vont bien, parce qu'on reste en France et on aime bien l'administration. Et quand on a ces pièces, on peut valider. Donc nous, on a une démarche administrative à faire derrière, mais la personne a juste à produire ces différentes pièces. Si la personne a clairement un diagnostic de fragilité important, mais que malheureusement, on n'arrive pas à la faire rentrer dans les cases administratives, il y a une solution, c'est qu'elle peut aller chez Pôle emploi. Donc nous, on contacte nos contacts habituels de Pôle emploi en expliquant que la personne, selon nous, a des critères de fragilité. Et là, les conseillers Pôle emploi peuvent décider que la personne est éligible, même si on n'a pas forcément le papier magique. On voit qu'il y a là vraiment une grande fragilité et que si on n'intervient pas, la personne risque de tomber dans une situation vraiment compliquée, l'éligibilité peut être décidée par Pôle emploi.
Donc finalement, même si ça ne rentre pas dans votre cadre, on peut encore trouver d'autres solutions pour accompagner malgré tout.
Exactement. Alors après, c'est effectivement au goutte à goutte et vraiment, il faut qu'il y ait vraiment un diagnostic qui soit effectué par Pôle emploi. Mais effectivement, si on a une personne qui a une situation vraiment particulière, on peut l'inclure dans notre dispositif.
Poursuivons ensuite un peu le cheminement. Si la personne, du coup, remplit les critères et peut être suivie par votre association, ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle de façon concrète ?
Alors, concrètement, elle va être reçue par une personne de l'équipe qui va faire déjà ce qu'on appelle un diagnostic socio-professionnel. Donc, c'est un entretien qui est généralement assez long, qui dure 1 à 2 heures, où on va passer en revue toute la situation de la personne, de ses revenus, son logement, son lien avec la santé, si elle a des enfants, voilà. Vraiment, avoir une vision à 360 degrés, bon, après, dans la mesure de ce qu'elle souhaite nous révéler, pour essayer de voir justement quels pourraient être les freins qui, aujourd'hui, peuvent l'empêcher d'accéder à un emploi. Ça, c'est la première chose qui nous permet de dire, bah, là, il va peut-être falloir travailler sur le sujet du logement, parce que la personne est dans une situation qui n'est pas pérenne sur le logement, donc il y a peut-être une crainte de perdre un logement, par exemple.
Donc la première étape est déjà de comprendre le pourquoi la personne n'a pas réussi jusqu'à présent à trouver un emploi pérenne.
Alors, pourquoi elle n'a pas réussi ou pourquoi elle pourrait ne pas réussir. Voilà. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il pourrait aujourd'hui l'en empêcher? Donc, on a d'abord ce diagnostic à faire qui est très important. Et ensuite, on va commencer à travailler sur le projet professionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne souhaite faire? Il faut bien se rendre compte qu'on accompagne des personnes qui sont en grande précarité, généralement. Et quand on leur demande ce qu'elles souhaitent faire, la réponse, c'est gagner de l'argent. Ça paraît logique.
Qui est très louable. Effectivement, la fin, mais.
Mais peu pérenne, en fait. Si on s'engage, si la personne va s'engager sur un côté vraiment lucratif qu'on peut tous comprendre, elle risque d'accepter un emploi qui ne lui plaît pas forcément, qui ne lui correspond pas et qu'elle va pas pouvoir garder dans la durée. Donc, nous, on va avoir ce travail très important d'aller au-delà de ça et de travailler sur la vocation de la personne. Qu'est-ce qui va vraiment la motiver à se lever le matin pour aller travailler et ce pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans? Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire et qui ne se fait pas en 2 jours. Donc, c'est un accompagnement sur la durée. Alors, notre statut nous permet d'avoir un accompagnement sur 2 ans. C'est que nous, chez Défi Service Plus, on va privilégier quelque chose de plus court, de 4 à 6 mois. Parce qu'on reste une solution temporaire. On n'est pas là pour garder les personnes indéfiniment chez nous. Notre objectif, c'est quand même qu'elles trouvent un emploi. Donc, on va travailler pendant ces 4 à 6 mois sur ce projet professionnel et en parallèle, leur proposer des missions de travail qui sont rémunérées. Un peu comme de l'intérim, mais on est sur quelque chose qui est plus souple et qui est sur souvent des missions plus courtes, hein, qui peut être de quelques heures, de quelques jours, quelques semaines.
Le but de ces missions, enfin, on ne va pas appeler ça mission du coup, mais le but est quoi? Double? À la fois, du coup, de sortir un peu de la précarité en gagnant de l'argent et à la fois de découvrir des métiers?
Exactement. Je dirais même qu'il est triple. D'abord, effectivement, ce sont des missions rémunérées. Donc, on perçoit un revenu, ce qui permet à la personne voilà, de sortir de sa précarité, de retrouver une situation aussi où elle est valorisée, puisqu'elle effectue une tâche et elle est payée pour cette tâche qui, parfois, n'est pas arrivée depuis très longtemps, voire jamais, à la personne concernée. Elle va pouvoir découvrir des métiers, puisqu'elle est mise en situation professionnelle, puisque ces missions sont des missions réelles chez des clients réels, majoritairement des entreprises, des collectivités, parfois quelques particuliers. Donc, ça répond à un besoin opérationnel, donc c'est pas du fictif, et ça, c'est important aussi. Et aussi, la personne va pouvoir développer des compétences qui vont être parfois transférables sur d'autres métiers. Voilà, elle peut effectuer des missions, je dis n'importe quoi, mais de surveillance scolaire dans une école parce qu'il y a un besoin à ce moment-là. Bon, c'est pas forcément son projet professionnel, mais il faut le voir un peu comme un job étudiant. Voilà, pendant quelques temps, elle fait ça et ça lui permet aussi de développer des compétences autres qu'elle pourra utiliser sur un autre métier.
Qui sont les entreprises justement où il y a les missions rémunérées dont vous parliez, c'est-à-dire que vous avez un réseau partenaire ou alors ce sont des entreprises lambda qui ont un besoin ponctuel et qui plutôt que se tourner vers l'intérim se tournent vers vous?
Alors les deux, on travaille, voilà, on a un réseau d'entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler, qui nous a bien identifiés, avec qui on a des bonnes réussites, qui vont faire appel à nous plutôt de 3 façons, soit on est face à un pic d'activité, un besoin temporaire. Donc, ils vont faire appel à nous, ils ont l'habitude, ils savent qu'on peut mettre à disposition des personnes. On va faire aussi des remplacements en cas d'absence de personnel, notamment dans le cadre d'arrêt maladie, et aussi dans le cadre de pré-embauche, où des personnes vont faire appel à nous, des entreprises ou des collectivités, pour tester la personne avant de l'embaucher à la fin. Donc, on a ce réseau d'entreprises avec qui on a l'habitude de travailler, et puis après, n'importe qui peut faire appel à nous, entre guillemets. Et donc, nous, on a aussi cette démarche commerciale d'aller à la rencontre d'entreprises pour leur expliquer quel est notre dispositif, en quoi il est un peu différent de celui de l'intérim. Mais il y ressemble quand même un petit peu. Donc, les personnes font souvent le lien. Et l'intérêt, c'est de les embarquer dans l'idée de se dire, vous allez aider une personne qui est en recherche d'emploi, qui a besoin qu'on leur fasse confiance. Et certains nous suivent.
Est-ce qu'ensuite, parfois, l'essai est, on va dire, transformé? Est-ce qu'il y a des entreprises qui disent, bah, vraiment, là, on a trouvé la pépite pour notre poste et on voudrait la garder, pas juste pour cette mission, mais la garder de façon définitive?
Exactement. On essaie vraiment de développer ce côté pré-embauche, puisque finalement, ça répond à nos deux objectifs. Le premier objectif, c'est de fournir la mission de travail à la personne, donc quel est son revenu, qu'elle développe ses compétences. Mais notre objectif final reste tout de même l'insertion professionnelle. Donc, quand la personne peut être embauchée par l'entreprise chez qui elle a fait ses preuves et où elle se sent bien, on a tous gagné. Donc, ça reste quand même le graal absolu et la meilleure des situations. Donc, on essaye de plus en plus de contacter ces entreprises qui ont du mal à recruter et leur dire que notre association peut être la solution à leurs besoins.
Vous nous avez dit 4 à 6 mois, c'est le temps que les gens passent chez vous ou c'est le temps de faire tous ces diagnostics et de trouver ensuite des missions?
C'est la moyenne que les personnes vont passer chez nous. La moyenne chez nous, ça va être à peu près 4 mois. Donc, c'est entre le moment où la personne passe la porte et le moment où elle accède à une solution d'emploi qui est plus stable et plus enviable que ce qu'elle a chez nous, puisque chez nous, on va être sur des contrats renouvelables. C'est des petits contrats. On ne s'engage pas sur un volume d'activité. Donc, ça reste quand même une solution qui est encore très précaire. Voilà. Donc, nous, notre objectif, c'est qu'elle aille vers quelque chose de plus stable. Quand on a des personnes... On a 2 cas de figure. On peut avoir des personnes qui ne sont pas très éloignées de l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, souvent, c'est de mettre le pied à l'étrier. Là, nous, notre objectif, c'est qu'elle aille vers une entreprise ou une collectivité traditionnelle, et ça peut aller très vite. On a des personnes qui ont plus de freins. Il va y avoir un travail plus long à mener. Et là, nous, notre objectif, ça va être de les orienter plutôt vers d'autres partenaires, notamment des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion, qui sont des structures qui font partie du même réseau que nous, finalement, et qui vont pouvoir travailler sur une durée plus longue le travail sur la levée des freins et sur les difficultés de la personne. Et là, ces structures-là peuvent proposer des contrats qui sont plus longs, sont plus sécurisants parce qu'ils s'engagent sur un volume d'heures et donc qui correspondent mieux à ce type de personnes.
En parlant de structure, vous nous avez dit au début que vous êtes basé à Chanteloup Les Vignes. Nous, on est vraiment sur la partie plus Mantois ici. Où est-ce que vous êtes installé? Comment est-ce que vous fonctionnez?
Alors, notre siège est à Chanteloup Les Vignes. Après, nous avons des permanences dans différentes communes du nord des Yvelines. En particulier, on a une permanence à Aubergenville, une fois par mois, une autre au Mureaux, et puis d'autres à Achères aussi, à Carrières-sous-Poissy.
Un élément dont on n'a pas encore parlé, ce sont les équipes qui vous accompagnent. Mmh. Comment est-ce que vous êtes structuré et combien vous êtes?
Alors, petite équipe.
Très efficace.
Très efficace, la meilleure des équipes, effectivement, que je salue. Donc, on a une petite équipe de 4 personnes, plus moi, qui sont pluridisciplinaires. Hein, donc, chacun va intervenir sur toutes les maillons de la chaîne. En gros, l'idée, c'est que la personne qu'on accompagne, le salarié en parcours d'insertion qui est accompagné, va avoir un référent qui va le suivre de son inscription dans l'association jusqu'à sa sortie. On peut être 1 ou 2 à intervenir sur le parcours de la personne en fonction de ses difficultés et de comment on peut intervenir. Mais en tout cas, il y a toujours un référent qui le suit du début jusqu'à la fin, donc de l'inscription, le diagnostic socio-professionnel, l'accompagnement, le projet professionnel, les missions de travail et la sortie.
Ensuite, une fois que les personnes sont passées par vous et trouvent un emploi, est-ce que certaines reviennent ensuite ou est-ce que vraiment vous avez dans la durée de bons résultats?
Alors malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, les personnes reviennent. Ça a été beaucoup le cas par le passé, parce que les règles, notamment au niveau de l'État, n'étaient pas les mêmes. Enfin, y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années. La personne peut revenir. C'est-à-dire, parfois, ça ne marche pas du premier coup, et ce n'est pas grave. Maintenant, l'objectif, c'est tout de même que la personne ne revienne pas. Et donc, on a mis en place un suivi dans la durée après l'obtention du contrat. On continue à la suivre pendant quelques mois pour s'assurer que tout va bien, qu'elle n'abandonne pas la première difficulté, parce que malheureusement, ce sont des personnes qui ont quand même des fragilités et pour qui une difficulté qui peut paraître à certains minime peut leur paraître beaucoup plus importante. Donc on continue à apporter un petit peu d'aide pendant les premiers mois pour être sûr que ça s'inscrit dans la durée.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient susceptibles du coup d'être dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut vous contacter?
C'est assez simple, vous pouvez venir nous voir, on est ouvert donc du lundi au jeudi de 9h à midi, de 14h à 17h à Chanteloup. On a une permanence, donc, comme je le disais, mensuelle à Aubergenville. Donc tout ça c'est indiqué sur le site web de l'association, défiservice78.fr. On peut nous appeler, nous envoyer un mail. Voilà, tout est indiqué sur le site. Ou si on est inscrit à Pôle emploi ou qu'on a une assistante sociale ou à la mission locale pour les jeunes, on peut en parler à son conseiller qui va nous contacter pour faire le lien. Voilà, ils nous connaissent tous, que ce soit le Pôle emploi de Mantes, la mission locale du Mantois. Ils nous connaissent bien, on travaille bien avec eux.
Merci beaucoup Aude Amarurtu d'être venue nous présenter donc Défi Service Plus, au service justement de ceux qui en ont besoin pour l'insertion professionnelle. Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast ainsi que les précédentes sur notre site internet bpmlaradio.com. À très vite.